Vous sentez-vous représenté dans vos singularités, dans vos identités, dans vos histoires? Je vous pose la question parce que je me suis souvenu hier de ce texte de Ralph Ellison en 1952 qui s'appelle « Homme invisible, pour qui chantes-tu ?» Le tout début de ce livre, la première page même, c'est l'une des plus fortes que j'ai jamais lues sur ce que c'est que de ne pas être représenté, justement, que d'être invisible dans la vie comme dans les arts, dans les livres comme sur les écrans. Il écrit « Je suis un homme qu'on ne voit pas. Rien de commun avec ces fantômes qui hantaient Edgar Allan Poe. Rien à voir non plus avec les ectoplasmes de vos productions hollywoodiennes. Je suis un homme réel, de chair et d'os, de fibres et de liquides. On pourrait même dire que je possède un esprit. Je suis invisible, comprenez bien, simplement parce que les gens refusent de me voir. Quand ils s'approchent de moi, les gens ne voient que mon environnement, eux-mêmes, ou des fantasmes de leur imagination. En fait, tout et n'importe quoi sauf moi. En fait, cette invisibilité dont je parle est due à une disposition particulière des yeux des gens que je rencontre. Je ne me plains pas, je ne proteste pas non plus. Mais il vous arrive souvent de douter réellement de votre existence. Vous vous demandez parfois si vous n'êtes pas simplement un fantôme dans l'esprit d'autrui. Ralph Ellison, 1952.
Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quelle question de représentation se pose mon invitée d'aujourd'hui? En mai dernier, elle éblouissait le Festival de Cannes en remportant le Grand Prix pour son premier long-métrage Atlantique, fable onirique ô combien politique sur une génération de jeunes Dakarois qui rêvent d'un avenir meilleur. Bonjour Mati Diop.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci à vous.
Ce matin, quel enjeu est-ce que c'est la représentation pour vous au cinéma?
C'est crucial, c'est précieux, c'est primordial et ça fait partie des raisons pour lesquelles ce film existe aujourd'hui.
Depuis toujours, depuis que vous étiez même spectatrice?
Voilà, en fait c'est un film que j'ai à la fois fait pour des raisons personnelles, politiques, mais aussi parce que j'avais envie de faire un cinéma qui m'a manqué, que j'ai pas assez vu, des personnages qui ont beaucoup manqué à la construction de mon imaginaire, et c'est tout ce manque et cette absence, ce vide. C'est aussi de quoi ce film est fait.
C'est passionnant, vous dites notamment, vous êtes rendu compte un jour que tous les Roméo et Juliette que vous aviez vus représentés étaient blancs.
Bah oui, 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 hormis quelques rares films, et c'est vrai que voilà, j'ai tout de suite pensé, eu envie de proposer, d'offrir un couple archétypal comme ça, à la Tristan et Iseut, Roméo et Juliette, noir, parce que, encore une fois, voilà, j'ai pas grandi avec ces figures et elles m'ont manqué et je pense que j'avais très envie aussi de les offrir en fait.
Alors quelles histoires est-ce qu'ils nous racontent, ces corps noirs, lorsqu'ils apparaissent sur l'écran, Mati Diop?
Mais ça dépend d'où ils viennent, ça dépend de la manière dont ils sont regardés aussi. En tout cas, les miens appartiennent à une géographie très précise, à un quartier très précis qui s'appelle Tiaroy. Et l'idée, c'était à la fois de parler d'un endroit très très précis qui peut se passer nulle part ailleurs qu'à Tiaroy, et d'en même temps d'ouvrir, permettre à n'importe qui de s'identifier à eux.
Et c'est un film de cinéma. En quoi le cinéma participe-t-il, à votre avis, de la construction de son identité? En quoi le cinéma, les images, les histoires de cinéma nous forment-elles, en fait, presque inconsciemment, vous, par exemple?
Je pense que J'ai eu conscience assez tôt de la dimension très 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 puissante en tant qu'outil justement du cinéma.
Comment ça?
Et de son. Mais je trouve que souvent le cinéma est pas assez pris au sérieux dans sa capacité incroyable à reconstruire, à réinventer. C'est un outil qui permet vraiment de réparer, de réinventer des imaginaires, des personnages. Tout d'un coup, de donner des visages à un certain type de personnes qui sont plutôt perçues comme une masse informe, abstraite. Comme par exemple les migrants, qui sont souvent très très mal représentés, maltraités médiatiquement. Là, je fais allusion à mon film et à la période inscrite entre 2000 et 2010, 2012, où beaucoup beaucoup de jeunes sénégalais ont quitté les côtes dakaroises pour sénégalaises pour rejoindre l'Espagne. Et déjà à ce moment-là, la manière dont cette situation tragique était traitée médiatiquement. Il était plus question d'une masse informe d'individus traités à travers le prisme de statistiques économiques et la nécessité de redonner des visages, une histoire, un hors-champ à ces personnes, dont certaines que j'ai rencontrées moi-même en fait aussi à Dakar.
Votre film Atlantique, Mati Diop, c'est donc l'histoire d'une jeune fille dans le Dakar d'aujourd'hui qui s'apprête à se marier, mais il se trouve qu'elle est amoureuse d'un autre garçon qui s'embarque à bord d'une pirogue pour traverser l'océan et pour rejoindre l'Europe. C'est donc l'histoire d'un départ qui résonne particulièrement avec cette actualité. Pour raconter cette tragédie de la migration, alors quel point de vue est-ce que vous avez adopté, vous ? Parce que c'est ça qui est fascinant.
Alors, la question du point de vue de ceux, celles, en l'occurrence celles, puisqu'il s'agit de femmes, qui restent. Et en fait, j'avais très envie de consacrer un film à cette jeunesse disparue en mer, mais je pense que j'ai mis un certain temps avant de comprendre que c'était pas tant ces garçons-là dont j'allais parler, mais l'expérience pour celles qui restent de leur disparition subite et de leur perte.
Pourquoi il fallait que ce soit ce point de vue-là ?
La perte et la disparition, elle est avant tout pour ceux et celles qui restent. Mmh. C'est une phrase d'ailleurs que dit sans doute mieux que cela Leonora Miano, que j'aime beaucoup. C'est vrai, c'est la perte et la disparition est pour ceux qui restent. Et la difficulté aussi de parler de cette situation, de cette expérience, sans penser qu'on peut se mettre à la place d'eux, représenter ce qui se passe à l'intérieur de ces traversées. Ça, j'ai toujours refusé d'aller mettre ma caméra à l'intérieur d'une pirogue ou de. Donc, j'ai adopté le point de vue de celle qui reste, le point de vue féminin, parce que j'ai eu besoin aussi de parler à partir de moi-même, à partir des sensations et d'une sensation que moi-même j'ai ressentie en étant le témoin proche de cette situation. Puisque en 2008, j'ai rencontré un certain nombre de jeunes qui s'apprêtaient à partir en mer, dont un qui en revenait, qui venait d'être rapatrié par la Croix-Rouge et qui m'a confié toute une nuit son expérience en mer. Et c'est à partir de ces sensations-là, de cette proximité, et du point de vue féminin, parce que quelque part derrière ces hommes qui partent, ces femmes restent et elles sont quelque part encore plus invisibles, encore moins représentées. Et puis, c'était aussi une manière de raconter l'histoire de transcender, en fait, cette disparition, de pas faire de ces femmes, de pas les enfermer dans un statut victimaire, mais de raconter la manière dont elles transcendent, dont elles se transforment à travers cette perte, ce deuil, et ces disparitions.
Je pense tout de suite à une scène qui est l'une des premières du film, où vos deux amoureux sont sur une plage, et le garçon regarde la mer, au lieu de regarder la jeune fille, que lui fait remarquer, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voyez dans son regard à lui ? Vous, cinéaste, Mati Diop.
C'était vraiment l'idée de raconter Souleymane qui est déjà parti, qui est là avec elle, de tout son cœur, de toutes ses forces, et qui en même temps est déjà ailleurs.
On dirait un fantôme, en fait.
Voilà. Et la première personne que j'ai filmée en 2008 qui m'a confié son voyage en mer m'a dit « Quand on décide de partir, c'est qu'on est déjà mort. » Et c'est une phrase qui m'a ouvert tout un monde, qui m'a profondément marqué, qui a été une formule qui m'a accompagnée tout au long de l'écriture. Et on sent d'ailleurs que Souleymane, au début du film, sur le pick-up, quand il quitte le chantier, qu'il vient d'apprendre qu'il n'est pas payé, que ça fait 3-4 mois qu'il travaille, qu'il ne sera pas payé, on sent dans ce voyage, dans ce plan de pick-up, qu'ils sont déjà ailleurs et qu'ils se conditionnent déjà au départ, qu'ils sont déjà en mer quelque part.
Mais les fantômes, il y en a dans l'Atlantique. Il y en a beaucoup, pas seulement ceux des jeunes garçons qui périront en mer, mais aussi ceux de toute l'histoire d'un continent, de son peuple, tantôt réduit en esclavage, tantôt écrasé par le joug de la colonisation. En quoi l'histoire du continent africain est-elle peut-être d'abord celle d'un corps constamment sacrifié, de fantômes qui perdurent aujourd'hui, Mati Diop ? Parce que c'est ça que vous nous dites, j'ai l'impression.
Oui, c'est toutes ces histoires. C'est aussi parler de l'Atlantique, en effet, comme d'un territoire hanté, qui recrache ses fantômes, au rythme du ressac des vagues, et qui, d'ailleurs, c'est Fog de Carpenter est vraiment un film qui m'a énormément influencé, qui a été vraiment, avec mon co-scénariste Olivier Demangel, l'un des films auxquels on revenait souvent. Mais votre question était plus précise que ça, et portait sur la question du
corps sacrifié.
Ouais, de la figure de, en l'occurrence, dans le film, d'une jeunesse sacrifiée, mais aussi d'un amour sacrifié, parce que c'est l'histoire d'un amour rendu impossible par un contexte économique, par une violence capitaliste, par une pression sociale. Et le film raconte vraiment l'histoire d'un amour sacrifié.
Mais alors l'avenir ? L'avenir, c'est un mot qui est central dans votre film. L'avenir d'un pays comme le Sénégal, de cette jeunesse, vous le voyez comment, vous ?
Je ne sais pas. En tout cas, le film porte à la fois un passé, un présent, un futur. J'ai vraiment, en tout cas, essayé d'aborder toutes ces dynamiques-là, en fait, à la fois ce passé dont on vient de parler, ces couches historiques extrêmement complexes, la manière dont ce pays a été traversé par tellement d'influences et un certain nombre de dominations culturelles, politiques, la manière dont un peuple, une jeunesse, essaye à la fois de se projeter dans un futur, mais dans un présent dont les bases fondamentales manquent. Donc, j'ai l'impression que le film parle de ces, que ces dynamiques de passé, présent, futur sont en permanente collision, tension et redéfinition, en fait.
Le grand prix du jury est attribué à
pour Atlantic, pour Matty Diop.
Je suis profondément honorée et heureuse d'être parmi vous. Je trouve ça un peu fou. Et voilà, j'ai hâte de partager ce film avec vous tous. Et...
Bravo Mathilde.
Pardon.
C'était la première fois à Cannes, Mathilde, qu'un film réalisé par une femme noire était en compétition. Événement symbolique, historique, qui a été souligné, qui a été répété à maintes reprises. Encore plus, évidemment, quand vous avez été récompensé, qu'on vous ramène à cette valeur d'exemple. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, à ce moment-là ?
Ce qui était délicat, c'est que, en fait, je manquais profondément de recul sur beaucoup de choses dans la mesure où je venais juste de terminer la fabrication d'un film qui m'a pris 5 ans. Je venais à peine de le finir. Donc déjà, il y a cette espèce d'état un peu ahuri où on n'a même pas, j'ai même pas eu le temps d'intégrer, de réaliser le fait que je venais de terminer un film que je me retrouve déjà à Cannes en compétition, ce qui est quand même sidérant, qui est à la fois merveilleux, terrifiant. Enfin, j'ai été traversée par une multitude d'émotions contradictoires, excitant, mais c'est intense quand même, c'est très éprouvant. Et du coup, cette question est arrivée. Elle était à la fois très 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 attendue et en même temps, elle m'a un peu tombée dessus. Je m'en suis pas défendue parce que je me suis pas sentie attaquée, je me suis pas sentie ni menacée ni gênée par cette question, même si elle est chargée évidemment. Parce que c'est pas, j'ai pas de problème. Est-ce qu'on me renvoie à ça?
D'autant que ça pose une question de l'industrie cinéma intéressante.
Et voilà, on peut pas à la fois dire et regretter qu'il n'y ait pas assez de cinéastes,
de femmes noires cinéastes
et de personnages noirs, et en même temps quand on devient le symbole de ça ou sans défendre en fait.
Surtout donc, que votre film a des enjeux féminins importants, Matty Diop. Très important, vous le soulignez, il dessine le trajet d'émancipation d'une jeune fille qui devient femme. Qu'est-ce que ça veut dire, je me suis posé la question pour vous, devenir une femme? Tiens.
Ça veut dire beaucoup de choses à la fois, mais en tout cas, en ce qui concerne mon film et le personnage d'Ada, je crois comprendre aussi, au vu de mon propre parcours, que c'est devenir soi. Que c'est devenir soi à partir d'un certain nombre de données qui nous ont voilà plus ou moins déterminés à être celle-ci ou celle-là.
Et comment on le sait ?
Jusqu'à ce qu'on voilà qu'on trouve sa propre voie à soi et son propre chemin. Et
comment on le sait qu'on a trouvé sa voie ?
Je pense qu'on le sent.
Atlantique, vous l'avez entièrement tourné au Sénégal. Pour vous, dont l'oncle Djibril Diop Mambéty était réalisateur, quel pays de cinéma est-ce que c'est le Sénégal, Matty Diop ?
C'est un pays de cinéma à la fois, ça me ramène à la fois au passé glorieux qu'il a connu, notamment à travers les films de mon oncle, et en même temps à cette espèce d'interruption terrible, de désert, où tout d'un coup il ne s'est plus rien passé.
Et vous avez des images quand même de cinéma qui vous viennent à l'esprit immédiatement ?
Oui, les films de mon oncle en premier, hein, si on parle du cinéma sénégalais, qui m'ont ébloui.
Quelles images, quels éblouissements ?
Les images de Tukibuki, de ce couple mythique en moto, des plans tellement puissants de Yen, les silences de ce film, les silences de Yen, les personnages de ces courts-métrages, La Petite Vendeuse de Soleil, la générosité de ces films, et puis surtout la sensation de plonger au cœur des rues de Dakar, d'être là, d'être...
Et je vous pose la question, parce que Matty Diop, vous avez grandi en France, d'un père sénégalais, d'une mère française, enfant, quelle était votre relation avec le Sénégal, justement ?
Alors, il y a plusieurs phases. Enfant, j'y allais régulièrement, donc suffisamment régulièrement pour entretenir un lien très proche et fluide avec ma famille, de sentir que Dakar, que le Sénégal était un repère important. Ensuite, pendant environ 10 ans, j'y suis plus du tout allée et c'était presque, c'est étrange, c'est comme si ça... J'ai vécu une sorte de blackout. Et ce mot est incroyable parce que la dernière fois, j'ai rencontré un comédien noir d'origine sénégalaise qui m'a parlé un peu de son expérience, de son rapport à son africanité, au Sénégal qu'il avait quitté depuis longtemps et qu'il avait complètement désinvesti. Et sans s'en rendre compte, ou peut-être qu'il s'en est rendu compte, mais il m'a parlé d'un blackout. Et je trouvais ça quand même génial d'utiliser ce mot. C'est exactement ça. Il y a eu un blackout pendant 10 ans ou quelque part. Sans m'en rendre compte, ma culture occidentale et blanche a pris complètement le dessus en fait sur qui était d'Africain en moi. Et il y a eu ce blackout qu'un jour, j'ai vraiment décidé de regarder en face.
De remplir.
Et de reconquérir, oui. Et de remplir. Parce qu'en tant que métisse, il y avait une sorte de déséquilibre qui commençait à devenir... je sais pas.
Mais il y avait toujours ces images des premiers voyages à Dakar, du premier voyage peut-être même, à Dakar, Mati Diop.
Oui, il y a des souvenirs d'enfance où je suis avec mes un certain nombre de cousines. On doit être au moins 6 ou 7 sur un immense matelas en banlieue de Dakar. Et on vivait, ma tante vivait dans un quartier très proche du phare des Mamelles, qui est le phare principal de Dakar. Et le phare, les rayons du phare, en fait, en pleine nuit, rentraient dans la chambre, rentraient dans la chambre. Et je me suis réveillée une nuit, réveillée au milieu de toutes mes cousines noires, et moi, plus claire au milieu, avec ce phare qui rentrait, qui sortait. Et ça, c'est une image tellement, tellement, tellement forte. Et des années plus tard, je réalise quand même Atlantique,
oui.
Dont le phare est, dont l'élément du phare est central.
Qu'est-ce qui fait pour vous, Mati Diop, de Dakar, une ville essentiellement cinématographique?
C'est incroyable la cinégénie de cette ville. C'est lié à tellement de choses à la fois, à une vibration inhérente à son peuple, aux lumières, aux couleurs, au rythme, au son principalement. Une richesse sonore absolument inouïe, chaotique, folle. Et quand je suis à Dakar, dans les rues, dans un taxi où je regarde les choses circuler autour de moi ou en train de marcher, j'ai l'impression de voir l'art, la création, le moderne émerger en permanence devant mes yeux. Et ça va être, c'est vraiment une circulation de lumière, de corps, une manière de s'habiller, une manière des associations de couleurs. Et puis, je pense, une sorte de brassage culturel incompréhensible, en fait.
On ressent d'ailleurs, en regardant le film, ce parti pris dès les premières images, quasi documentaire. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'onirisme. Pour vous, Mati Diop, qu'est-ce que c'est une image de cinéma?
Je redoutais cette question.
C'est-à-dire qu'avec votre film, on est un peu obligé de la poser.
Parce que, pour moi, l'image commence vraiment là où mes mots s'arrêtent, justement. J'ai filmé avant d'écrire des histoires, j'ai filmé avant... C'est mon premier langage. Le fait de filmer, c'est... Je redoute à cette question, j'aurais dû la préparer.
Vous aurez tout le temps d'y répondre.
Ouais.
On va reparler de tout ça, d'images, de fantômes, d'exil aussi, juste après un titre que j'aime infiniment. C'est un titre de 1992 du musicien sénégalais Ismaël Lo, que l'on retrouve aussi d'ailleurs chez Pedro Almodovar dans Tout sur ma mère. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on est au cinéma, que la salle s'assombrit à mesure que le rideau rouge s'ouvre sous vos yeux et que vous vous enfoncez dans votre fauteuil, vous savez, le bras sur l'accoudoir, du moins sur le bord de l'accoudoir, pour pas gêner votre voisin. Vous allez prendre une grande inspiration, parce que tout peut arriver ce matin. Après tout, on est au cinéma. Ou alors peut-être qu'on est sur France Inter avec Mati Diop. Et que vous écoutez Boomang, évidemment.
Nita Tajobon dañuy tajobon nita tajobon dañuy tajobon abdul o jambar ñaari malaika la xawé e sikaw daanu ci sero momu munila degam julinga momu munila degam wonga nita jobon denita jobon nita Benita Jabon Wale
Abdou Jamba
Wale
Nyari malaika la
Wale
Ci kaw lay joge
Wale
Dano si sero
Wale
Munila
Wale
Degam julinga
Wale
Munila
Wale
Tegam wonga
wale
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Ma théorie, c'est que la voir, c'est avoir immédiatement envie de la copier et de devenir son ami, de faire partie de sa bande, au risque de perdre un petit peu sa dignité. On est quelque part entre Rizzo, la chef des Pink Ladies dans Grease, et Suzanne Sarandon dans Thelma et Louise. Avec son petit chemisier ce matin et son bracelet en argent, la cinéaste Mati Diop, invitée de Boomerang, ce matin donc pour Atlantique, son premier long métrage, Grand Prix au dernier Festival de Cannes. L'histoire, on le disait, d'une jeune fille qui attend le retour de celui qu'elle aime, après qu'il a embarqué à bord d'une pirogue pour rejoindre l'Espagne. Ce qui frappe dans ce film, c'est pour moi tout de suite la texture, en fait, ses couleurs, sa lumière, une lumière comme chargée de poussière, Mati Diop. Quelle lumière est-ce que vous avez essayé de rendre sensible sur vos images?
C'est à la fois très lié à la ville elle-même, déjà. Et c'est vrai que, par exemple, dans les discussions que j'ai pu avoir avec Claire Maton, j'avais la chef opératrice du film, avec qui j'ai adoré collaborer. J'avais envie à la fois de lui donner des références photographiques, cinématographiques, et en même temps, il y a quelque chose dans cette approche un peu très efficace, mais un peu scolaire, des références qu'il faut avoir. En fait, je lui disais, mais Claire, je vais t'emmener à Dakar. On va marcher dans les rues et tu comprendras tout de suite. Tu verras que je pourrais te donner n'importe quelle référence. Mais à un moment donné, il fallait que je l'emmène là-bas, que je l'embarque là-bas. Et pour vous donner un exemple, la manière dont les océans, par exemple, voilà, ont été filmés, je disais à Claire que j'avais envie qu'on filme ces plans seulement à des moments où la lumière générait une sensation fantastique qu'il fallait. On a vraiment essayé de filmer l'océan dans tous les moments où l'océan ne se ressemblait plus,
oui,
mais ressemblait à une planète inaccessible, pas faite pour l'homme, en gros, à un élément fantastique.
Et c'est passionnant, cette atmosphère sépulcrale, atmosphère propice à la transe, au retour de l'esprit des disparus en mer qui prennent possession des corps. Qu'est-ce qui se joue pour vous dans ces histoires de transe?
Alors, il y a d'un point de vue plastique, esthétique, et puis d'un point de vue plus politique, c'est complètement lié de toute manière, mais plus je prends du recul sur le film, plus je réalise que c'est un film de... Sur la mutation, c'est un film de passage. Je crois que ça me passionne absolument, la notion de la métamorphose, du passage, d'un état à un autre, du visible à l'invisible. Enfin, c'est ces espèces de moments de bascule, en fait, qui m'intéressent énormément. Alors, à la fois... On parle d'esthétique, mais il était vraiment question de faire revenir de la figure du revenant, en fait, pour parler du migrant, celui qui part et dont le retour est tant attendu, qui fait de lui la figure du revenant par excellence. Et après, sur comment faire revenir ces garçons, j'ai pu imaginer qu'ils reviennent en chair et en os, qu'ils sortent de l'océan même, mais j'ai choisi la possession. Le fait que leur présence soit à la fois omniprésente et invisible, et que ces revenants prennent possession des femmes,
oui,
pour parler de la question de la hantise, en fait.
Mais ces possessions, vous les avez vues, on vous les a racontées?
En fait, alors, c'était d'abord pour parler de la question de la hantise, de l'idée que les fantômes prennent naissance en nous, au sein même de notre imaginaire, que c'est nous qui les faisons revenir par amour, par obsession, par folie. Et non seulement c'était cette question-là de hantise, mais aussi j'ai voulu que la forme que prendraient ces revenants, ces fantômes, soit à la fois en phase avec les croyances locales, en l'occurrence tout cet imaginaire musulman des djinns, oui, qui m'ont toujours fascinée, en particulier les djinns amoureux qui prennent possession des femmes la nuit, leur font l'amour. Alors au Sénégal, à Dakar, quand une femme échoue par exemple dans son mariage ou qu'elle n'est pas satisfaisante en tant qu'épouse, on la soupçonne d'avoir un farourab, d'avoir un djinn amoureux qui l'accapare la nuit et qui l'empêche d'être entièrement disponible et à son mariage, à sa relation.
C'est passionnant d'ailleurs dans le film parce que la cohabitation de la religion musulmane avec d'autres types de croyances,
ouais,
crée cet effet de brassage, de fusion, cet univers très complexe qui résiste, j'ai l'impression, à toute tentative de définition. Et c'est ça que vous filmez aussi, le refus de définir.
Mais en fait, c'est ce que je filme et c'est ce que je suis. Profondément. Je pense que le film est vraiment à l'image de toutes les cultures, les influences, les classes sociales aussi qui m'ont faite et qui m'ont traversée depuis toujours. Et je pense que cette espèce de mosaïque, de transculturalité qui est la nature même de mon métissage est retranscrit dans le film par cette multitude d'influences et d'informations. Ouais.
« Quel rôle joue la musique dans Atlantique, Mathy Diop?
Je disais que l'image, le plan arrive là où mes mots s'arrêtent et la musique là où mes images, nos images s'arrêtent. Et je pense que la musique, elle vient exprimer tout ce qu'il est impossible de faire exister à travers des dialogues, à travers des plans. Elle vient parler de l'indicible, elle vient parler de l'insondable, elle vient parler du mystère.
C'est ça qu'elle raconte là, maintenant ?
Là, ce qu'elle raconte, c'est quelque chose qui vient de très très loin. Moi, je suis fascinée par les liens invisibles entre les personnes. Et que ce soit les acteurs ou les collaborateurs artistiques que je choisis, qui me choisissent pour construire une œuvre, je pense qu'il s'agit de liens profonds, en fait, invisibles, qui nous lient. Et en l'occurrence, avec Fatima El-Kadiri...
musicienne sénégalaise qui compose.
Alors, elle est née à Dakar, parce que son père était diplomate du Koweït. Et elle est née à Dakar, elle a passé les 6 premiers mois de sa vie à Dakar, donc j'aime imaginer que les premiers sons qui l'ont habité viennent de Dakar. Mais ensuite, elle est retournée au Koweït, elle a jusqu'à environ 18 ans, et elle a connu la guerre du Golfe. Toute sa musique est vraiment conçue, façonnée à partir de cette expérience de la guerre.
Et il fallait qu'elle ne soit pas étrangère aux enjeux politiques et culturels de votre film.
C'est ça. Non seulement sa musique... moi, je suis fascinée par la musique de cette femme depuis toujours. J'ai eu la sensation, quand j'ai découvert sa musique, de découvrir la musique de ma génération, la musique de mon temps. Et voilà, et pour moi, c'est pas seulement la question du résultat, est-ce que ça va être beau, est-ce qu'ils vont être... C'est qu'est-ce qu'elle défend elle-même à travers cette musique, qu'est-ce qu'elle comprend de la complexité géopolitique du film, qu'est-ce qu'elle a à défendre elle en tant que femme.
Tout en étant, si je vous entends bien, toujours un peu étrangère.
Elle-même a cette propre réalité.
Oui,
parce que finalement, elle y est née, elle y a vécu 6 mois, mais elle n'a pas remis les pieds depuis. Mais elle fait quand même partie d'un territoire dont la représentation a aussi été absolument.
Mais un peu comme vous, qui avez appris, par exemple, le Wolof, la langue du film, qui n'est pas votre langue maternelle. Il y a eu tout un travail ici, chez vous.
De reconquête. De cette culture qui fait partie de moi. Et puis de mettre en lumière des récits, des histoires perdues, oubliées.
Quelle langue est-ce que c'est devenu pour vous, le Wolof, Mathy Diop?
C'est devenu une langue de cinéma, dans le sens où c'est devenu la langue de mes films.
Ça veut dire que vous les tournerez tous, au Wolof?
Non, vraiment, j'ai pas du tout l'intention de tourner que des films en Afrique dans ma vie. J'ai très très envie de continuer à travailler en Afrique, mais après, c'est vrai que ce dont j'ai besoin, c'est de la dimension politique, et que cette dimension politique fasse écho à une problématique personnelle. J'ai besoin de ces deux éléments-là, l'intime et le politique. Et pour l'instant, cette collision et cette rencontre de ces deux éléments a trouvé son épanouissement là-bas, à Dakar. J'ai très envie de me raconter aussi, d'écrire un film plus autobiographique à Paris, qui raconte aussi mon expérience de métisse ici, en France. Mais ce sera toujours, je pense, si ça se passe à Paris, en France, il y aura forcément aussi de l'Afrique dedans. Enfin, de toute façon, c'est l'idée aussi de filmer peut-être la réalité d'une africanité vécue à Paris. Et là, finalement, ce film, il a beau être tourné à Dakar, avec des personnes qui vivent là-bas, qui parlent Wolof, qui se passent précisément à Thiaroy. Et en même temps, il est irrigué, nourri d'énormément d'influences occidentales, que ce soit le courant romantique, littéraire ou pictural, que ce soit des films américains. Enfin, je pense que c'est toutes mes influences et mon héritage de cinéma occidental qui rencontre un territoire qui est celui de Dakar et de l'Afrique.
Vous diriez qu'il vous ressemble, ce film, essentiellement ?
Je pense que j'ai mis un certain temps à comprendre que c'était une forme d'autoportrait, oui, que Kada, c'est l'adolescente sénégalaise que j'ai pas été, parce que j'étais à Paris. C'est au montage qu'on comprend vraiment exactement d'où le film vient, je pense. Enfin, c'est en plus, surtout quand on monte aussi longtemps que nous avons monté, ma monteuse et moi, on a pris le temps vraiment de plonger. Et c'est là que j'ai compris que Kada, que ce film, c'était pour moi une manière de vivre l'adolescence dakaroise que j'avais pas vécue. Et donc ouais, c'est une forme d'autoportrait, bien sûr.
Comme j'invite tous les auditeurs de France Inter dans ce portrait, merci infiniment Mathy Diop d'être venu dans le Boomerang. Je rappelle qu'Atlantique, votre premier long métrage, donc avec Mama Sané, Amadou Mbo, Ibrahima Traoré, Nicole Sougou, Aminata Kané entre autres, a remporté le Grand Prix au dernier Festival de Cannes, que c'est une révélation évidemment pour nous. On vous souhaite le meilleur pour ce film.
Merci infiniment.